Les paysans, première partie, chapitre 6. Une histoire de voleurs. Vers 1791, en visitant sa terre, Mademoiselle Laguerre accepta pour intendant le fils de l'ex-bailli de Soulanges, appelé Gobertin. La petite ville de Soulanges, aujourd'hui simple chef-lieu de canton, fut la capitale d'un comté considérable, au temps où la maison de Bourgogne guerroyait contre la maison de France. La ville aux Failles, aujourd'hui siège de la sous-préfecture, simple petit fief, relevait alors de Soulanges, comme les Aigues, Rouquerolles, Cerneux, Couches et 15 autres clochers. Les Soulanges sont restés comtes, tandis que les Rouquerolles sont aujourd'hui marquis par le jeu de cette puissance appelée la Cour, qui fit le fils du capitaine du Plessis, duc avant les premières familles de la conquête. Ceci prouve que les villes ont, comme les familles, de très changeantes destinées. Le fils du bailli, garçon sans aucune espèce de fortune, succédait à un intendant enrichi par une gestion de 30 années, et qui préféra la troisième part dans la fameuse compagnie Minoret à la gestion des Aigues. Dans son propre intérêt, le futur vivrier avait présenté pour régisseur François Gobertin, alors majeur, son comptable depuis 5 ans, chargé de protéger sa retraite, et qui, par reconnaissance pour les instructions qu'il reçut de son maître en intendance, lui promit d'obtenir un quitus de Mademoiselle Laguerre, en la voyant très effrayée de la Révolution. L'ancien bailli, devenu accusateur public au département, fut le protecteur de la peureuse cantatrice. Ce Fouquier-Tinville de province arrangea contre une reine de théâtre, évidemment suspecte à raison de ses liaisons avec l'aristocratie, une fausse émeute pour donner à son fils le mérite d'un sauvetage postiche, à l'aide duquel on eut le quitus du prédécesseur. La citoyenne Laguerre fit alors de François Gobertin son premier ministre, autant par politique que par reconnaissance. Le futur fournisseur des vivres de la République n'avait pas gâté Mademoiselle. Il lui faisait passer à Paris environ 30 000 livres par an, quoique les Aigues en dussent dès ce temps rapporter 40 au moins. L'ignorante fille d'opéra fut donc émerveillée quand Gobertin lui en promit 36. Pour justifier de la fortune actuelle du régisseur des Aigues au tribunal des probabilités, il est nécessaire d'en expliquer les commencements. Protégé par son père, le jeune Gobertin fut nommé maire de Blangy. Il put donc faire payer en argent, malgré les lois, en terrorisant, un mot du temps, les débiteurs qui pouvaient à sa guise être ou non frappés par les écrasantes réquisitions de la République. Le régisseur, lui, donna des assignats à sa bourgeoise, tant que dura le cours de ce papier-monnaie, qui, s'il ne fit pas la fortune publique, fit du moins beaucoup de fortune particulière. De 1792 à 1795, pendant 3 ans, le jeune Gobertin récolta 150 000 livres aux Aigues, avec lesquels il opéra sur la place de Paris. Bourrée d'assignats, Mademoiselle Laguerre fut obligée de battre monnaie avec ses diamants désormais inutiles. Elle les remit à Gobertin, qui les vendit, et lui en rapporta fidèlement le prix en argent. Ce trait de probité toucha beaucoup Mademoiselle. Elle crut dès lors en Gobertin comme en Piccini. En 1796, époque de son mariage avec la citoyenne Isaure Mouchon, fille d'un ancien conventionnel ami de son père, Gobertin possédait 350 000 francs en argent. Et, comme le directoire lui parut devoir durer, il voulut, avant de se marier, faire approuver ses 5 ans de gestion par Mademoiselle, en prétextant d'une nouvelle ère. « Je serai père de famille, dit-il. Vous savez quelle est la réputation des intendants. Mon beau-père est un républicain d'une probité romaine, un homme influent d'ailleurs. Je veux lui prouver que je suis digne de lui. » Mademoiselle Laguerre arrêta les comtes de Gobertin dans les termes les plus flatteurs. Pour inspirer de la confiance à Madame des Aigues, le régisseur essaya, dans les premiers temps, de réprimer les paysans, en craignant avec raison que les revenus ne souffrissent de leur dévastation, et que les prochains pots de vin du marchand de bois fussent moindres. Mais alors le peuple souverain se regardait partout comme chez lui. Madame eut peur de ses rois en les voyant de si près, et dit à son Richelieu qu'elle voulait avant tout mourir en paix. Les revenus de l'ancien premier sujet du champ étaient si forts au-dessus de ses dépenses qu'elle laissa s'établir les plus funestes précédents. Ainsi, pour ne pas plaider, elle souffrit les empiétements de terrain de ses voisins. En voyant son parc entouré de murs infranchissables, elle ne craignit point d'être troublée dans ses jouissances immédiates, et ne souhaitait pas autre chose que la paix, en vrai philosophe qu'elle fût. Quelques 1000 livres de rente de plus ou de moins, des indemnités demandées sur le prix du bail par le marchand de bois pour les dégâts commis par les paysans, qu'était-ce aux yeux d'une ancienne fille d'opéra, prodigue, insouciante, à qui ces 100 000 livres de revenus n'avaient coûté que du plaisir, et qui venait de subir sans se plaindre la réduction des 2/3 sur 60 000 francs des rentes. « Eh !» disait-elle, avec la facilité des impures de l'ancien régime, « il faut que tout le monde vive, même la République !» La terrible mademoiselle Cochet, sa femme de chambre, et son vizir femelle, avaient essayé de l'éclairer en voyant l'empire que Gobertin prit sur celle qu'il appela tout d'abord « madame », malgré les lois révolutionnaires sur l'égalité. Mais Gobertin éclaira de son côté mademoiselle Cochet, en lui montrant une dénonciation soi-disant envoyée à son père, où elle était véhémentement accusée de correspondre avec Pitt et Cobourg. Dès lors, ces deux puissances partagèrent, mais à la Montgomery. La Cochet vanta Gobertin à mademoiselle Laguerre, comme Gobertin lui vanta la Cochet. Le lit de la femme de chambre était d'ailleurs tout fait. Elle se savait couchée sur le testament de madame pour 60 000 francs. Madame ne pouvait plus se passer de la Cochet, tant elle y était habituée. Cette fille connaissait tous les secrets de la toilette de chère maîtresse. Elle avait le talent d'endormir chère maîtresse le soir par 1000 contes et de la réveiller le lendemain par des paroles flatteuses. Enfin, jusqu'au jour de la mort, elle ne trouva jamais chère maîtresse changée. Et quand chère maîtresse fut dans son cercueil, elle la trouva sans doute encore bien mieux qu'elle ne l'avait jamais vue. Les gains annuels de Gobertin et ceux de mademoiselle Cochet, leurs appointements, leurs intérêts, devinrent si considérables que les parents les plus affectueux n'eussent pas été plus attachés qu'eux à cette excellente créature. On ne sait pas encore combien le fripon d'Orlotte sa dupe. Une mère n'est pas si caressante ni si prévoyante pour une fille adorée que l'est tout commerçant en tartufferie pour sa vache à lait. Aussi, quel succès n'ont pas les représentations de Tartuffe jouées à huis clos? Ça vaut l'amitié. Molière est mort trop tôt. Il nous aurait montré le désespoir d'Orgon, ennuyé par sa famille, tracassé par ses enfants, regrettant les flatteries de Tartuffe, et disant « c'était le bon temps ». Dans les 8 dernières années de sa vie, mademoiselle Laguerre ne toucha pas plus de 30 000 francs sur les 50 que rapportait en réalité la terre des Aigues. Gobertin en était arrivé, comme on voit, au même résultat administratif que son prédécesseur, quoique les fermages et les produits territoriaux eussent notablement augmenté de 1791 à 1815, sans compter les continuelles acquisitions de mademoiselle Laguerre. Mais le plan formé par Gobertin pour hériter des Aigues à la mort prochaine de madame l'obligeait à maintenir cette magnifique terre dans un état patent de dépréciation, quant aux revenus ostensibles. Initiée à cette combinaison, la cochée devait en partager les profits. Comme au déclin de ses jours, l'ex-reine de théâtre, riche de 20 000 livres de rente dans les fonds appelés les consolidés, tant la langue politique se prête à la plaisanterie, dépensait à peine les 10 000 francs par an. Elle s'étonnait des acquisitions annuelles faites par son régisseur pour employer les fonds disponibles, elle qui jadis anticipait toujours sur ses revenus. L'effet du peu de besoin de sa vieillesse lui semblait un résultat de la probité de Gobertin et de Mademoiselle Cochet. « Deux perles !» disait-elle aux personnes qui la venaient voir. Gobertin gardait d'ailleurs dans ses comptes les apparences de la probité. Il portait exactement en recette les fermages. Tout ce qui devait frapper la faible intelligence de la cantatrice en fait d'arithmétique était clair, net, précis. Le régisseur demandait ses bénéfices à la dépense, aux frais d'exploitation, aux marchés à conclure, aux ouvrages, aux procès qu'il inventait, aux réparations, détails que jamais madame ne vérifiait et qu'il lui arrivait quelquefois de doubler, d'accord avec les entrepreneurs, dont le silence s'achetait par des prix avantageux. Cette facilité conciliait l'estime publique à Gobertin, et les louanges de madame sortaient de toutes les bouches. Car, outre ses arrosages en travaux, elle faisait beaucoup d'aumônes en argent. « Que Dieu la conserve, la chère dame !» était le mot de tout le monde. Chacun obtenait en effet quelque chose d'elle, en pur don ou indirectement. En représailles de sa jeunesse, la vieille artiste était exactement pillée, et si bien pillée que chacun y mettait une certaine mesure, afin que les choses n'allassent pas si loin qu'elle n'ouvrit les yeux, ne vendit les aigues et ne retournât à Paris. Cet intérêt de grappillage fut, hélas, la raison de l'assassinat de Paul-Louis Courier, qui fit la faute d'annoncer la vente de sa terre et son projet d'emmener sa femme, dont vivaient plusieurs tonsards de Touraine. Dans cette crainte, les maraudeurs des aigues ne coupaient un jeune arbre qu'à la dernière extrémité, quand ils ne voyaient plus de branches à la hauteur des faucilles mises au bout d'une perche. On faisait le moins de tort possible, dans l'intérêt même du vol. Néanmoins, pendant les dernières années de la vie de Mademoiselle Laguerre, l'usage d'aller ramasser le bois était devenu l'abus le plus effronté. Par certaines nuits claires, il ne se liait pas moins de 200 fagots. Quant au glanage et au halbotage, les aigues y perdaient, comme l'a démontré Sibylle, le quart des produits. Mademoiselle Laguerre avait interdit à la cochée de se marier de son vivant, par une sorte d'égoïsme de maîtresse à femme de chambre, dont beaucoup d'exemples peuvent avoir été remarqués en tout pays, et qui n'est pas plus absurde que la manie de garder jusqu'au dernier soupir des biens parfaitement inutiles au bonheur matériel, au risque de se faire empoisonner par d'impatients héritiers. Aussi, 20 jours après l'enterrement de Mademoiselle Laguerre, Mademoiselle Cochet épousa-t-elle le brigadier de la gendarmerie de Soulanges, nommé Soudry, très bel homme de 42 ans, qui depuis 1800, époque de la création de la gendarmerie, la venait voir presque tous les jours aux aigues, et qui, par semaine, dînait au moins 4 fois avec elle et les Gobertins. Madame, pendant toute sa vie, eut une table servie pour elle seule ou pour sa compagnie. Malgré leur familiarité, jamais ni la cochée ni les Gobertins ne furent admis à la table du premier sujet de l'Académie royale de musique et de danse, qui conserva jusqu'à sa dernière heure son étiquette, ses habitudes de toilette, son rouge et ses mules, sa voiture, ses gens et sa majesté de déesse. Déesse au théâtre, déesse à la ville, elle resta déesse jusqu'au fond de la campagne, où sa mémoire est encore adorée, et balance bien certainement la cour de Louis XVI dans l'esprit de la première société de Soulanges. Ce Soudry, qui dès son arrivée dans le pays fit la cour à la cochée, possédait la plus belle maison de Soulanges, 6 000 francs environ, et l'espérance de 400 francs de retraite le jour où il quitterait le service. Devenue Madame Soudry, la cochée obtint dans Soulanges une grande considération. Quoiqu'elle gardât un secret absolu sur le montant de ses économies, placées comme les fonds de Gobertin à Paris, chez le commissionnaire des marchands de vin du département, un certain Leclerc, enfant du pays que le régisseur commandita, l'opinion générale fit de l'ancienne femme de chambre une des premières fortunes de cette petite ville d'environ 1200 âmes. Au grand étonnement du pays, monsieur et madame Soudry reconnurent pour légitime, par leur acte de mariage, un fils naturel du gendarme, à qui dès lors la fortune de madame Soudry devait appartenir. Le jour où ce fils acquit officiellement une mère, il venait d'achever son droit à Paris et se proposait d'y faire son stage afin d'entrer dans la magistrature. Il est presque inutile de faire observer qu'une mutuelle intelligence de 20 années engendra l'amitié la plus solide entre les Gobertins et les Soudry. Les uns et les autres devaient, jusqu'à la fin de leur jour, se donner réciproquement « urbi et urbi » pour les plus honnêtes gens de France. Cet intérêt, basé sur une connaissance réciproque des tâches secrètes que portait la blanche tunique de leur conscience, est un des liens les moins dénoués ici-bas. Vous en avez, vous qui lisez ce drame social, une telle certitude que pour expliquer la continuité de certains dévouements qui font rougir votre égoïsme, vous dites de deux personnes « Elles ont, pour sûr, commis quelques crimes ensemble. » Après 25 ans de gestion, l'intendant se voyait alors à la tête de 600 000 francs en argent, et la cochée possédait environ 250 000 francs. Le revirement agile et perpétuel de ces fonds, confiés à la maison Leclerc et compagnie du quai de Béthune, à l'île Saint-Louis, antagoniste de la fameuse maison Grandet, aida beaucoup à la fortune de ce commissionnaire en vin et à celle de Gobertin. À la mort de mademoiselle Laguerre, Jenny, fille aînée du régisseur, fut demandée en mariage par Leclerc, chef de la maison du quai de Béthune. Gobertin se flattait alors de devenir le maître des aigues par un complot ourdi dans l'étude de maître Lupin, notaire établi par lui depuis 11 ans à Soulanges. Lupin, fils du dernier intendant de la maison de Soulanges, s'était prêté à de faibles expertises, à une mise à prix de 50% au-dessous de la valeur, à des affichages inédits, à toutes les manœuvres malheureusement si communes au fond des provinces pour adjuger sous le manteau, selon le proverbe, d'importants immeubles. Dernièrement, il s'est formé, dit-on, à Paris, une compagnie dont le but est de rançonner les auteurs de ces trames en les menaçant d'enchérir. Mais en 1816, la France n'était pas, comme aujourd'hui, brûlée par une flamboyante publicité. Les complices pouvaient donc compter sur le partage des aigues fait secrètement entre la cochée, le notaire et Gobertin, qui se réservaient in petto de leur offrir une somme pour les désintéresser de leur lot, une fois la terre en son nom. L'avoué chargé de poursuivre la licitation au tribunal par Lupin avait vendu sa charge sur parole à Gobertin pour son fils, en sorte qu'il favorisa cette spoliation, si tant est que les 11 cultivateurs picards à qui cette succession tomba des nues se regardèrent comme spoliés. Au moment où tous les intéressés croyaient leur fortune doublée, un avoué de Paris vint, la veille de l'adjudication définitive, charger l'un des avoués de la ville aux Failles, qui se trouvait être un de ses anciens clercs, d'acquérir les aigues, et il les eut pour 1150 francs. À 1100 000 francs, aucun des conspirateurs n'osa continuer d'enchérir. Gobertin crut à quelque trahison de Soudry, comme Lupin et Soudry se crurent joués par Gobertin. Mais la déclaration de commande les réconcilia. Quoique soupçonnant le plan formé par Gobertin, Lupin et Soudry, l'avoué de province se garda bien d'éclairer son ancien patron. Voici pourquoi. En cas d'indiscrétion des nouveaux propriétaires, cet officier ministériel aurait eu trop de monde à dos pour pouvoir rester dans le pays. Ce mutisme, particulier à l'homme de province, sera d'ailleurs parfaitement justifié par les événements de cette étude. Si l'homme de province est sournois, il est obligé de l'être. Sa justification se trouve dans son péril admirablement exprimé par ce proverbe « Il faut hurler avec les loups ». Le sens du personnage de Philinte. Quand le général Montcornet prit possession des aigues, Gobertin ne se trouva plus assez riche pour quitter sa place. Afin de marier sa fille aînée au riche banquier de l'entrepôt, il était obligé de la doter de 200 000 francs. Il devait payer 30 000 francs la charge achetée à son fils. Il ne lui restait donc plus que 370 000 francs sur lesquels il lui faudrait tôt ou tard prendre la dot de sa dernière fille, Élise, à laquelle il se flattait de moyenner un mariage au moins aussi beau que celui de l'aîné. Le régisseur voulut étudier le comte de Montcornet, afin de savoir s'il pourrait le dégoûter des aigues, en comptant alors réaliser pour lui seul la conception avortée. Avec la finesse particulière aux gens qui font leur fortune par la cautèle, Gobertin crut à la ressemblance, assez probable d'ailleurs, du caractère d'un vieux militaire et d'une vieille cantatrice. Une fille d'opéra, un général de Napoléon, n'était-ce pas les mêmes habitudes de prodigalité, la même insouciance? À la fille comme au soldat, le bien ne vient-il pas capricieusement et au feu? S'il se rencontre des militaires rusés, astucieux, politiques, n'est-ce pas l'exception? Et le plus souvent, le soldat, surtout un sabreur fini comme Montcornet, doit être simple, confiant, novice en affaires, et peu propre aux 1000 détails de la gestion d'une terre. Gobertin se flatta de prendre et de tenir le général dans la nasse où Mademoiselle Laguerre avait fini ses jours. Or, l'empereur avait jadis permis, par calcul, à Montcornet d'être en Poméranie ce que Gobertin était aux aigues. Le général se connaissait donc en fourrage d'intendance. En venant planter ses choux, suivant l'expression du premier duc de Biron, le vieux cuirassier, on doit croire l'auteur des paysans assez instruit des choses de son temps pour savoir qu'il n'y avait point de cuirassier dans la garde impériale. Il prend ici la liberté de faire observer qu'il a dans son cabinet les uniformes de la République, de l'Empire, de la Restauration, la collection de tous les costumes militaires des pays que la France a eus pour alliés ou pour adversaires, et plus d'ouvrages sur les guerres de 1792 à 1815 que n'en possède tel maréchal de France. Il se sert de la voix du journal pour remercier les personnes qui lui ont fait l'honneur d'assez s'intéresser à ses travaux, pour lui envoyer des notes rectificatives et des renseignements. Une fois pour toutes, il répond ici que ses inexactitudes sont volontaires et calculées. Ceci n'est pas une scène de la vie militaire, où il serait tenu de ne pas mettre des sabretaches à des fantassins. Toucher à l'histoire contemporaine, ne fût-ce que par des types, comporte des dangers. C'est en se servant pour des fictions, d'un cadre dont les détails sont minutieusement vrais, en dénaturant tour à tour les faits par ces couleurs qui leur sont étrangères, qu'on évite le petit malheur des personnalités. Déjà, pour une ténébreuse affaire, quoique le fait eût été changé dans ses détails et appartienne à l'histoire, l'auteur a dû répondre à d'absurdes observations basées sur cette objection qu'il n'y avait eu qu'un sénateur d'enlever, de séquestrer sous le règne de l'empereur. Je le crois bien, on aurait peut-être couronné de fleurs celui qui en aurait enlevé un second. Si l'inexactitude relative au cuirassier est trop choquante, il est facile de ne pas parler de la garde. Mais la famille de l'illustre général qui commandait la cavalerie refoulée sur le Danube nous demanderait alors compte des 1 100 000 francs que l'empereur a laissé prendre à Montcornet en Poméranie. On viendra bientôt nous prier de dire dans quelle géographie se trouve la ville aux Failles, Lavonne et Soulanges. Tous ces pays et ces cuirassiers vivent sur le globe immense où sont la tour de Raffenswoude, les eaux de Saint-Ronan, la terre de Tillietudlem, Granderklung, Lilliput, l'abbaye de Thélème, les conseillers privés d'Hoffmann, l'île de Robinson Crusoe, les terres de la famille Shandy, dans un monde exempt de contributions, et où la poste se paie par ceux qui y voyagent à raison de 20 centimes le volume. Note de l'auteur. Il voulait s'occuper de ses affaires pour se distraire de sa chute. Quoiqu'il eût livré son corps d'armée aux Bourbons, ce service, commis par plusieurs généraux et nommé licenciement de l'armée de la Loire, ne put racheter le crime d'avoir suivi l'homme des 100 jours sur son dernier champ de bataille. En présence des étrangers, il fut impossible au père de 1815 de se maintenir sur les cadres de l'armée. Forte raison de rester au Luxembourg. Montcornet alla donc, selon le conseil d'un maréchal en disgrâce, cultiver les carottes en nature. Le général ne manquait pas de cette ruse particulière au vieux loup de Guérite. Et dès les premiers jours consacrés à l'examen de ses propriétés, il vit dans Gobertin un véritable intendant d'opéra comique, un fripon, comme les maréchaux et les ducs de Napoléon. Ces champignons, nés sur la couche populaire, en avaient presque tous rencontré. En s'apercevant de la profonde expérience de Gobertin en administration rurale, le sournois cuirassier sentit combien il était utile de le conserver pour se mettre au courant de cette agriculture correctionnelle. Aussi se donna-t-il l'air de continuer Mademoiselle Laguerre, fausse insouciance qui trompa le régisseur. Cette apparente niaiserie dura pendant tout le temps nécessaire au général pour connaître le fort et le faible des aigues, les détails des revenus, la manière de les percevoir, comment et où l'on volait, les améliorations et les économies à réaliser. Puis, un beau jour, ayant surpris Gobertin la main dans le sac, suivant l'expression consacrée, le général entra dans une de ces colères particulières à ces dompteurs de pays. Il fit alors une de ces fautes capitales, susceptible d'agiter toute la vie d'un homme qui n'aurait pas eu sa grande fortune ou sa consistance, et d'où sourdirent d'ailleurs les malheurs, grands et petits, dont fourmille cette histoire. Élève de l'école impériale, habitué à tout sabrer, plein de dédain pour les Pékins, Montcornet ne crut pas devoir prendre de gants pour mettre à la porte un coquin d'intendant. La vie civile et ses 1000 précautions étaient inconnues à ce général, aigri déjà par sa disgrâce. Il humilia donc profondément Gobertin, qui s'attira d'ailleurs ce traitement cavalier par une réponse dont le cynisme excita la fureur de Montcornet. « Vous vivez de ma terre ?» lui avait dit le comte avec une railleuse sévérité. « Croyez-vous donc que j'ai pu vivre du ciel ?» répliqua Gobertin en riant. « Sortez, canaille, je vous chasse !» dit le général en lui donnant des coups de cravache que le régisseur a toujours niés, les ayant reçus à huis clos. « Je ne sortirai pas sans mon quitus !» dit froidement Gobertin après s'être éloigné du violent cuirassier. Nous verrons ce que pensera de vous la police correctionnelle, répondit Montcornet en haussant les épaules. En s'entendant menacer d'un procès en police correctionnelle, Gobertin regarda le comte en souriant. Ce sourire eut la vertu de détendre le bras du général, comme si les nerfs en eussent été coupés. Expliquons ce sourire. Depuis 2 ans, le beau-frère de Gobertin, un nommé Gendrin, longtemps juge au tribunal de première instance de la ville aux Failles, en était devenu le président par la protection du comte de Soulanges. Nommé pair de France en 1814 et resté fidèle aux Bourbons pendant les Cent Jours, monsieur de Soulanges avait demandé cette nomination au garde des Sceaux. Cette parenté donnait à Gobertin une certaine importance dans le pays. Relativement, d'ailleurs, un président de tribunal est, dans une petite ville, un plus grand personnage qu'un premier président de cour royale, qui trouve au chef-lieu des égaux dans le général, l'évêque, le préfet, le receveur général. Tandis qu'un simple président de tribunal n'en a pas. Le procureur du roi, le sous-préfet, étant amovible ou destituable. Le jeune Soudry, le camarade à Paris comme aux aigues de Gobertin fils, venait alors d'être nommé substitut du procureur du roi dans le chef-lieu du département. Avant de devenir brigadier de gendarmerie, Soudry, père, fourrier dans l'artillerie, avait été blessé dans une affaire en défendant M. de Soulanges, alors adjudant général. Lors de la création de la gendarmerie, le comte de Soulanges, devenu colonel, avait demandé pour son sauveur la brigade de Soulanges. Et plus tard, il sollicita le poste où Soudry fils avait débuté. Enfin, le mariage de Mademoiselle Gobertin étant chose conclue au quai de Béthune, le comptable infidèle se sentait plus fort dans le pays qu'un lieutenant général mis en disponibilité. Si cette histoire ne devait pas offrir d'autre enseignement que celui qui ressort de la brouille du général et de son régisseur, elle serait déjà profitable à bien des gens pour leur conduite dans la vie. À qui sait lire fructueusement Machiavel, il est démontré que la prudence humaine consiste à ne jamais menacer, à faire sans dire, à favoriser la retraite de son ennemi en ne marchant pas, selon le proverbe, sur la queue du serpent, et à se garder comme d'un meurtre de blesser l'amour-propre de plus petit que soi. Le fait, quelque dommageable qu'il soit aux intérêts, se pardonne à la longue. Il s'explique de mille manières. Mais l'amour-propre, qui saigne toujours du coup qu'il a reçu, ne pardonne jamais à l'idée. La personnalité morale est plus sensible, plus vivante en quelque sorte, que la personnalité physique. Le cœur et le sang sont moins impressibles que les nerfs. Enfin, notre être intérieur nous domine, quoi que nous fassions. On réconcilie deux familles qui se sont entretuées, comme en Bretagne ou en Vendée lors des guerres civiles, mais on ne réconciliera pas plus les spoliés et les spoliateurs que les calomniés et les calomniateurs. On ne doit s'injurier que dans les poèmes épiques, avant de se donner la mort. Le sauvage, le paysan, qui tient beaucoup du sauvage, ne parle jamais que pour tendre des pièges à leurs adversaires. Depuis 1789, la France essaie de faire croire, contre toute évidence, aux hommes qu'ils sont égaux. Or, dire à un homme « Vous êtes un fripon » est une plaisanterie sans conséquence. Mais le lui prouver en le prenant sur le fait et le cravachant, mais le menacer d'un procès correctionnel sans le poursuivre, c'est le ramener à l'inégalité des conditions. Si la masse ne pardonne à aucune supériorité, comment un fripon pardonnerait-il à l'honnête homme? Montcornet aurait renvoyé son intendant sous prétexte d'acquitter d'anciennes obligations en mettant à sa place quelque ancien militaire. Certes, ni Gobertin ni le général ne se seraient trompés, l'un aurait compris l'autre. Mais l'autre, en ménageant l'amour-propre de l'un, lui eût ouvert une porte pour se retirer. Gobertin eût alors laissé le grand propriétaire tranquille. Il eût oublié sa défaite à l'audience des criers, et peut-être eût-il cherché l'emploi de ses capitaux à Paris. Ignominieusement chassé, le régisseur garda contre son maître une de ces rancunes qui sont un élément de l'existence en province, et dont la durée, la persistance, les trames étonneraient les diplomates habitués à ne s'étonner de rien. Un cuisant désir de vengeance lui conseilla de se retirer à la ville aux Failles, d'y occuper une position d'où il put nuire à Montcornet et lui susciter assez d'ennui pour le forcer à remettre les aigues en vente. Tout trompa le général, car les dehors de Gobertin n'étaient pas de nature à l'avertir ni à l'effrayer. Par tradition, le régisseur affecta toujours, non pas la pauvreté, mais la gêne. Il tenait cette règle de conduite de son prédécesseur. Aussi, depuis 12 ans, mettait-il à tout propos en avant ses 3 enfants, sa femme et les énormes dépenses causées par sa nombreuse famille. Mademoiselle Laguerre, à qui Gobertin se disait trop pauvre pour payer l'éducation de son fils à Paris, en avait fait tous les frais. Elle donnait 100 louis par an à son cher filleul, car elle était la marraine de Claude Gobertin. Le lendemain, Gobertin vint, accompagné d'un garde nommé Courtecuisse, demander très fièrement au général son quitus, en lui montrant les décharges données par feu mademoiselle en termes flatteurs, et il le pria, très ironiquement, de chercher où se trouvaient ses immeubles et ses propriétés. S'il recevait des gratifications des marchands de bois et des fermiers au renouvellement des baux, mademoiselle Laguerre les avait, dit-il, toujours autorisés, et non seulement à les gagner en les lui laissant prendre, mais encore y trouvait sa tranquillité. L'on se serait fait tuer dans le pays pour mademoiselle, tandis qu'en continuant ainsi, le général se préparait bien des difficultés. Gobertin, et ce dernier trait est fréquent dans la plupart des professions où l'on s'approprie le bien d'autrui par des moyens non prévus par le code, se croyait un parfait honnête homme. D'abord, il possédait depuis si longtemps l'argent extirpé par la terreur aux fermiers de mademoiselle Laguerre, payé en assignat, qu'il le considérait comme légitimement acquis. Ce fut une affaire de change. À la longue, il pensait même avoir couru des dangers en acceptant des écus. Puis, légalement, madame ne devait recevoir que des assignats. Légalement est un adverbe robuste. Il supporte bien des fortunes. Enfin, depuis qu'il existe des grands propriétaires et des intendants, c'est-à-dire depuis l'origine des sociétés, l'intendant a forgé pour son usage un raisonnement que pratiquent aujourd'hui les cuisinières et que voici dans sa simplicité. Si ma bourgeoise, se dit chaque cuisinière, allait elle-même au marché, peut-être paierait-elle ses provisions plus que je ne les lui compte. Elle y gagne, et le bénéfice qu'on m'abandonne est mieux placé dans mes poches que dans celles du marchand. Si mademoiselle exploitait elle-même les aigues, elle n'en tirerait pas 30 000 francs. Les paysans, les marchands, les ouvriers lui voleraient la différence. Il est plus naturel que je la garde, et je lui épargne bien des soucis, se disait Gobertin. La religion catholique a seule le pouvoir d'empêcher de semblables capitulations de conscience. Mais depuis 1789, la religion est sans force sur les 2/3 de la population en France. Aussi les paysans, dont l'intelligence est très éveillée et que la misère pousse à l'imitation, étaient-ils, dans la vallée des Aigues, arrivés à un état effrayant de démoralisation. Ils allaient à la messe le dimanche, mais en dehors de l'église, car ils s'y donnaient toujours, par habitude, rendez-vous pour leur marché et leurs affaires. On doit maintenant mesurer tout le mal produit par l'incurie et par le laisser-aller de l'ancien premier sujet du chant à l'Académie.